Vous écoutez
RMC.
Et 7h, merci d'avoir choisi RMC. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'union est enfin scellée à gauche. C'est l'annonce de la soirée par ces mots. Le nouveau Front Populaire, maintenant sur pied avec des candidatures uniques et un programme qui sera détaillé à la mi-journée. Vous allez entendre Emmanuel Macron qui prend pour lui la défaite des européennes. Ça m'a touché, reconnaît le président qui assure avoir entendu le message.
Et puis vos questions à Jordan Bardella sur la sécurité, la santé, l'éducation, l'immigration, le pouvoir d'achat. C'est au 3216 dès maintenant ou à l'adresse vosquestions@rmc.fr. Vous interpellé directement à 8h30 dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Jordan Bardella.
Et puis le grand début de l'Euro de foot ce soir en Allemagne, le pays hôte face à l'Écosse. Il faudra attendre lundi pour voir les bleus.
Fumée blanche donc finalement hier soir à gauche.
Oui, fumée rose, rouge, verte, même aux couleurs des partis qui ont annoncé la finalisation du nouveau Front Populaire. Hein, Cyprien Pézeril, après 4 jours de négociations, l'accord sera présenté en grande pompe tout à l'heure à la mi-journée.
L'image sera historique, s'enthousiasme un négociateur. Avec cette conférence de presse, les dirigeants de la gauche reprennent le même format qu'Emmanuel Macron mercredi, à ceci près que là, ce sera un moment plein d'espoir, promet l'un d'eux. Au programme, présentation des candidats investis, un seul par circonscription pour éviter les dispersions de voix. Selon nos informations, l'accord prévoit de réinvestir tous les députés sortants, y compris Adrien Quatennens dans le Nord. Le reste de la conférence sera consacré au projet. Quel programme pour les 100 premiers jours en cas de victoire figure notamment l'index des salaires et des pensions sur l'inflation. Selon nos informations, il y a aussi une partie sur la lutte contre l'antisémitisme, un chapitre aussi sur l'international. Les attaques du 7 octobre sont qualifiées de massacres terroristes, mais pas le Hamas en lui-même. Enfin, sur l'Ukraine, l'intégrité de ses frontières sera reconnue.
Vous ne serez pas déçus, voilà ce que dit déjà l'écologiste Marine Tondelier à propos de cet accord. Cette union de la gauche était un devoir. Ça, c'est ce que disait hier soir sur France 2 l'ancien président François Hollande. Mais alors, une question reste en suspens. Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, qui pour incarner cette union de la gauche?
C'est bien la question la plus sensible du moment. Et à gauche, tous se cachent derrière le sens des responsabilités face au risque de l'extrême droite pour ne pas s'affaiblir dès le début de la campagne en déterminant justement qui irait à Matignon en cas de victoire. Ne surtout pas donner d'arguments à la Macronie et au Rassemblement national pour éviter toute diabolisation et notamment autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon. Si le leader de la France insoumise se sent capable, un front anti-Mélenchon s'est formé au Parti Socialiste. Pour François Hollande, interrogé hier sur TF1, les derniers propos du leader insoumis ne lui permettent pas de revendiquer une place au gouvernement. Alors qui? François Ruffin, député de la Somme, se dit aussi capable, comme pour semer le trouble à la France insoumise. Même position du patron du Parti communiste, Fabien Roussel. Une femme, demande la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, dont le nom avait déjà circulé comme potentielle première ministre d'Emmanuel Macron.
C'est l'accord de la honte, ça, c'est ce que disait le Premier ministre Gabriel Attal en dévoilant les 3 grands axes de campagne du camp présidentiel, à savoir pouvoir d'achat, environnement, autorité. Gabriel Attal qui tend la main aux sociodémocrates, comme le fait d'ailleurs aussi ce matin dans le journal Le Figaro l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Alors pendant ce temps, Emmanuel Macron remue le couteau dans la plaie en marge du G7 dans les Pouilles en Italie en avant qu'il a pris personnellement la défaite des européennes.
Moi je dis, ça ne m'a pas fait plaisir dimanche. On a compris, il y a des choses qui vont changer. J'ai fait des choses impopulaires, j'ai fait le grand débat au moment des Gilets jaunes. J'ai fait des choses impopulaires, je me suis resoumis au vote des Françaises et des Français. On a fait des réformes impopulaires, je pense qu'il était sain que les Françaises et les Français puissent se réexprimer. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent, donc je l'ai pris pour moi. Ça ne m'a pas fait plaisir, évidemment que ça m'a touché. Donc il y aura un jour d'après ces élections.
Ne regardez pas uniquement la devanture, ça c'est ce que dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans un message sur les réseaux sociaux adressé aux jeunes comme une contre-offensive face au Rassemblement National. D'ailleurs, il y a cette première bourde dans la campagne du RN. C'était hier soir, bourde du vice-président Sébastien Chenu. Romain, vous allez nous la raconter pour RMC. Sébastien Chenu qui a défendu à la télévision une mesure abandonné depuis 2 ans par son camp.
Oui, cette mesure, c'est la suppression de la double nationalité extra-européenne. Mesure que défendait avec conviction hier soir Sébastien Chenu sur le plateau de TPMP.
Mais moi, je suis attaché au fait qu'une nationalité, vous en avez une, et elle dit beaucoup. Elle dit beaucoup de ce que vous êtes.
Alors, pendant deux minutes, le vice-président défend bec et ongle cette mesure en plateau. Personne ne relève, sauf que voilà, cela fait maintenant 2 ans que le RN l'a abandonné. Mea culpa, tweet Sébastien Chenu après l'émission. Marine Le Pen a renoncé à cette mesure et ne compte pas revenir dessus, oui. Mais trop tard, c'est une bourde dont s'est immédiatement saisi le gouvernement. Marine Le Pen change tellement d'avis que même le pauvre Chenu ne sait plus où il habite, tacle Éric Dupond-Moretti sur les réseaux sociaux. Le RN, c'est un jour un reniement, écrit quant à lui Gérald Darmanin.
Le RN qui ne présentera pas de candidat face à Éric Ciotti et deux de ses soutiens dans les Alpes-Maritimes, c'est confirmé maintenant. Le feuilleton d'ailleurs va continuer à droite hein, ce matin. Nouveau bureau politique des LR. Et c'est à 11h que le tribunal judiciaire de Paris va examiner le recours en justice déposé en urgence par Éric Ciotti qui conteste la légalité de son expulsion des LR, qu'il qualifie de poupouche. C'est ce qu'il a dit hier soir à la télévision. Après, vous le savez, son alliance avec le RN. Les services de renseignement attendent entre 50 et 100 000 personnes ce week-end dans la rue pour les manifestations anti-RN à l'appel de 5 syndicats et de nombreuses associations. À 7h06 sur RMC, 18 ans de prison, ce sont les peines qui ont été prononcées hier soir par la cour d'appel de Paris contre les deux accusés qui étaient rejugés pour association de malfaiteurs 8 ans après l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. C'est donc le grand début de l'Euro de football aujourd'hui en Allemagne. Le 17e du nom que vous allez vivre en intégralité sur RMC, radio officielle. Tous les matchs en direct, vous n'allez pas en rater un seul. Une radio digitale 100% euro, 24 heures sur 24. Match d'ouverture donc ce soir entre l'Allemagne et l'Écosse à Munich. Vous êtes déjà ce matin pour RMC, Nicolas Pelletier.
Oui, sous le soleil de Munich, bière dans une main et drapeau allemand dans l'autre, Oliver fait déjà ses pronostics.
Nous allons gagner 3-1 contre les Écossais.
À quelques mètres des fans allemands, les Écossais mettent l'ambiance. Arrivé du Royaume-Uni hier matin, Greg savoure le retour d'une compétition dans un pays qui vibre pour le football.
Munich est une ville fantastique et l'Allianz Arena un stade incroyable pour commencer une compétition. J'espère un bon résultat ce soir.
À ses côtés, Chris a très peur de l'équipe allemande.
Ils ont l'équipe la plus forte, ils jouent à domicile, ils ont les meilleurs supporters et ils viendront en nombre à chaque match. Donc je pense qu'ils sont les favoris.
Mais pour cet Euro, ce sont bien les Français qui font figure de favoris.
Pour une raison, Kylian Mbappé. C'est le meilleur en Europe et il va sûrement finir meilleur buteur.
Bien sûr, l'équipe de France, pour moi, ce sont les favoris. Je pense qu'ils ont les meilleures individualités, mais c'est vrai que l'Allemagne aussi est une bonne équipe.
Pendant un mois, ce sont plus de 2,5 millions de spectateurs qui sont attendus dans les 10 stades de l'Euro.
Et les Bleus joueront lundi contre l'Autriche. On attendait un Portugais. Ce sera finalement un Italien sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Arrivée imminente de Roberto De Zerbi contre 6 millions d'euros pour attirer le coach actuel de Brighton en Angleterre. Et puis tiens, ce tremblement de terre, écoutez, en Écosse. Oui, c'est ça le tremblement de terre. La star américaine Taylor Swift y était en concert en Écosse ces derniers jours. Ses fans, les Swifties comme on les appelle, ont tellement tapé du pied, crié que les vibrations ont provoqué plusieurs pics d'activité sismique.
Ah oui, carrément.
Carrément.
Oui,
c'est donc... pas la première fois, mais c'est plus que n'importe quelle autre star. Et c'est pas la première fois donc avec Taylor Swift.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
L'Euro de foot, c'est parti. Bonjour Jean-Louis Tour.
Bonjour.
On se retrouve dans un instant pour voir les enjeux de la compétition, les chances des Bleus pour devenir enfin champions d'Europe, plus de 20 ans après leur dernier titre. Et puis la politique qui s'invite aussi, tiens, sur le camp de base des Bleus en Allemagne. Vous allez voir, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et on va parler foot.
Le témoin RMC.
Salut Jean-Louis Tour, de la rédaction d'RMC Sport. Coup d'envoi donc de l'Euro ce soir, 21h, Allemagne-Écosse. La France, elle joue lundi soir face à l'Autriche. Le dernier titre européen des Bleus, c'était en 2000, 2 ans après le titre mondial à la maison. Est-ce que cette année, ça peut être la bonne?
Bah c'est vrai que ça remonte, hein, la dernière victoire à l'Euro. Kylian Mbappé l'a bien rappelé dans chacune de ses interviews, que ce soit en conférence de presse ou dans les médias étrangers. C'est le seul trophée qui me manque avec l'équipe de France. Est champion du monde, il a gagné la Ligue des Nations, donc on espère que ce soit la bonne cette année. On avait fait finale en 2016 chez nous, mais on reste surtout sur l'élimination en 2021, un peu piteuse en huitième de finale contre la Suisse. Bon, on a un groupe pas évident, hein, avec l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne. Il y avait plus simple dans cet Euro, mais voilà, on a quand même toutes les armes pour aller au bout.
Mbappé, justement, il s'est.
Il faut juste préciser, parce que ouais. Jean-Louis dit que c'est un groupe compliqué. L'Euro, c'est plus compliqué à gagner que la Coupe du Monde.
Ah oui, alors ça c'est ce qu'on disait, ce qu'on a dit pendant très longtemps. Là, il y a juste une différence, c'est qu'il y a 24 équipes maintenant à l'Euro, et donc ça veut dire qu'il y a même des troisièmes de groupe qui peuvent se qualifier. Donc ça laisse peut-être un peu plus de temps quand même pour monter en puissance.
Mbappé justement, il s'est entraîné de son côté hier. Ça veut dire quoi ça?
Oui, alors c'est le quatrième entraînement depuis le début du rassemblement qu'il rate. Donc il était en basket, il a fait ses soins, il a fait ses exercices de son côté, mais il a pas fait l'entraînement
mais
avec les autres.
Bah
alors il y a pas d'inquiétude au sein du staff de l'équipe de France. On sait que il a été ménagé sur le dernier match de préparation contre le Canada. Il avait mal au dos, il avait pris un coup au genou. Bon, on sait aussi qu'il a pas fait la meilleure saison avec le PSG au niveau physique. On l'a senti un peu emprunté parfois. Il a dû être géré. Il a pas enchaîné beaucoup. Donc il y a ces petits doutes autour de lui. Mais bon, je suis sûr que.
Mais c'est pour le ménager.
Voilà. Oui, a priori c'est ça. Il a un entraînement un peu à la
j'aime
carte.
J'aime pas trop ce a priori.
J'aime pas beaucoup ce a
priori.
Jean-Louis, on va être honnête, ça fait au moins 6 mois qu'on n'a pas vu un bon Mbappé et qu'on nous dit mais vous inquiétez pas, premier match de l'Euro, hop, il va être bon. Et il est capable comme ça d'appuyer sur un bouton et de redevenir bon.
Oui, il est capable quand même. Mbappé, il est quand même extraordinaire. Donc
c'est pas pour
ça
vous,
l'appuie,
pour le PSG,
il est capable.
Mais il le garde pour la France.
Ouais, c'est un
non,
peu
mais on monte un peu en puissance. Là. D'un seul coup, il va être bon.
Non, mais c'est vrai qu'il fait pas la meilleure saison de sa carrière, c'est sûr. Même s'il a un nombre de buts énorme, on se réfugie toujours derrière ses buts, mais dans l'explosivité et tout, il a manqué quelque chose cette année. On espère qu'il va retrouver ça.
On va parler politique deux minutes. Enfin, c'est pas moi qui en parle d'ailleurs. Écoutez, c'est Ousmane Dembélé qui l'a fait spontanément hier en conférence de presse. On l'écoute.
La sonnette d'alarme, elle a été lancée. Il faut se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Un Français sur deux ne vote pas et je pense qu'il faut se mobiliser, aller tous voter. Les législatives vont arriver. La FFF va mettre en place quelque chose pour qu'on aille voter par procuration. Il faut se mobiliser, aller voter.
Il faut se mobiliser. Il lance un véritable appel.
Enfin, parce que la veille, moi j'ai commencé à être inquiet parce qu'il y avait deux autres joueurs, Upamecano, Coman, qui sont pas forcément des cadres de l'équipe de France, mais en gros les deux, sur cette question, on dit « circuler, nous on parle de foot et pas de politique ». Et moi j'attendais de croiser un joueur de l'équipe de France depuis le résultat des européennes parce que j'avais le souvenir de 2002 lorsqu'à l'époque avant la Coupe du monde 2002, Jean-Marie Le Pen passe le premier tour et là il y a un communiqué commun des joueurs de l'équipe de France, Marcel Desailly le capitaine en tête pour dire il faut faire barrage au Front national.
Là il rase un peu les murs.
Zinedine Zidane aussi à l'époque avait pris la parole, c'est pour ça que moi j'attendais peut-être quelque chose de la part de Mbappé ou Griezmann, ça arrivera peut-être d'ici au premier tour, mais au moins cet engagement citoyen,
là on
c'est plus
bien,
qu'un engagement politique.
Il prend pas parti, il dit voilà, il y a un Français sur deux qui se sont abstenus, il précise d'ailleurs qu'il votera. Donc, oui. Il montrera l'exemple qu'ils auront une procuration, même s'ils sont en Allemagne.
C'est ça. Ça, c'est les infos qu'on a eues depuis quelques jours. C'est que c'est un sujet entre eux. Ils en parlent de ce qui se passe en France niveau politique. Ils vont s'organiser pour faire des procurations. Ça avait déjà été le cas pour les européennes, mais là, sans doute encore un peu plus. Maintenant, c'est un engagement citoyen d'appeler à voter. C'est pas un engagement politique non plus. Alors que certains joueurs de l'équipe de France nous ont montré déjà un certain engagement sur certains sujets de société.
Ils rechignent. Pour l'instant, ils rechignent.
Ça a pu leur être reproché, Kylian Mbappé notamment, sur les violences policières, le fameux tweet pour la mort de Naël. Donc il n'y a pas un engagement clair politique de faire barrage au Rassemblement National. Mais
Didier Deschamps, il en pense quoi? Parce que Didier Deschamps, on sait qu'il aime pas trop ça. Dans tout ce qui est extra-sportif, il aimerait peut-être qu'il parle plus de terrain que de politique.
Je pense que c'est clairement le message de Didier Deschamps. On a un euro à préparer, c'est plus important.
Il a pas engueulé Dembélé hier en lui disant non, t'arrêtes.
Alors, c'est les infos qu'on a aussi, c'est qu'il n'y a pas de consigne de la part du service presse de l'équipe de France pour ne pas parler de tout ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que Didier Deschamps a bien insisté pour qu'il soit vraiment focus sur l'euro.
Pour qu'il se concentre sur le foot, on ne loupera rien. Donc, l'euro, ça commence ce soir sur RMC. Ça sera à un moment 24-24. Jean-Louis.
Oui, alors ça va être énorme l'euro sur RMC. Déjà parce que comme à chaque grande compétition, RMC met tout en place. L'antenne sera dédiée de 15h à 1h30 du matin les soirs de match avec la libre antenne. Il y a la Dream Team mobilisée, Manu Petit, Jérôme Rotten, Jean-Michel Larquet, Christophe Dugarry, Eric Dimeco, Louise Anessib aussi, l'ancienne joueuse de l'équipe de France qui nous a rejoint. On ira même à la rencontre du public les jours de match de l'équipe de France. Lundi par exemple, avant match et après match, Rotten sans flamme et l'after seront à Mâcon, le fief d'Antoine Griezmann. On ira comme ça à chaque match des Bleus auprès des clubs formateurs des stars de l'équipe de France. Et puis donc 24h sur 24, c'est sur la radio digitale, les 51 matchs en intégralité. Vous allez sur l'appli RMC, la radio 100% euro, et là vous avez l'ensemble des rencontres, que de l'euro en continu.
Merci Jean-Louis d'être venu nous expliquer tout ça ce matin. Jean-Louis Tour, rédacteur en chef football à RMC, et donc l'appli RMC pour tout, et en particulier pour cette radio digitale 100% euro 24-24, 7h17.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
La gauche peut gagner les législatives. C'est l'un des enseignements de notre sondage Elab hier. La gauche qui a trouvé un accord hier soir. Mais la gauche peut-elle gouverner après avoir éventuellement gagné? Quand on voit les divergences de fond, Éric Coquerel me répondra à 7h40. En attendant, on va retrouver le 7h20 d'Apolline Matin avec le trio du vendredi. Guillemette Franquet, Manu Le Chypre et Arnaud Demanche.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu avec Cyprien Pézril du service politique d'RMC. Bonjour Cyprien.
Bonjour Apolline.
Depuis dimanche, vous suivez jour et nuit les négociations pour une alliance à gauche et vous nous dites que ça a été très très tendu jusqu'au bout, jusqu'à hier soir.
Oui, à tel point que la conférence de presse de présentation de l'Union, qui aura lieu à la mi-journée, était initialement prévue hier. Une salle avait été réservée, mais dans la dernière ligne droite, chaque camp a voulu obtenir plus. Il a donc fallu repousser. En 2022, pour la NUPES, la discussion avait consisté à amender le programme de Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, lundi, les négociateurs sont partis d'une feuille blanche, un Google Doc. Chacun a fait en sorte de ne pas mettre de sel sur les plaies, explique un participant. Exemple, les écologistes ne sont pas arrivés autour de la table en exigeant la sortie du nucléaire dès les premiers jours en cas de victoire. La réunion durait parfois plus de 20 heures d'affilée, interrompue par exemple mardi soir par l'annonce de la disparition de Françoise Hardy. Certains se sont mis à chantonner, manière aussi de faire redescendre la pression. Et puis l'autre enjeu de ces négociations, c'était aussi la répartition des circonscriptions, véritable bataille de tableur Excel. Désormais, tous s'attendent à une campagne dure. On a pris du temps sur le programme pour nous permettre la clarté, espère un cadre qui reconnaît que les difficultés seront au sein même de ce nouveau Front Populaire aussi. J'espère que l'on ne fera pas l'erreur d'être centré sur nous et sur nos petites batailles.
Les coulisses de l'accord signé à gauche, indiscret signé Cyprien Pézril.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et on retrouve le trio du 7h20 d'Apolline Matin. Guillemette Franquet, Manu Le Chypre, Arnaud Demanche. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Guillemette, aujourd'hui, vous venez en aide à des auditeurs RMC pour qui c'est véritablement cauchemar en cuisine.
Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'était engagé il y a quelques mois pour des clients de Mobalpa, laissés sur le carreau après la faillite de différents magasins. Des franchises, donc des boutiques indépendantes, même si elles font partie du réseau Mobalpa. Cette fois, trois auditeurs nous ont contactés pour un problème avec une franchise d'un autre cuisiniste, Xina. Le magasin d'Agen a mis la clé sous la porte en octobre dernier. Parmi les clients, Gonzague, il a avancé près de 2700 euros pour refaire la cuisine de sa maison de vacances dans le Lot-et-Garonne. Il voulait accueillir toute sa famille, ses quatre enfants et ses 10 petits-enfants.
On a fait tous les plans, on est venu deux fois. Juste au début des vacances de la Toussaint, par la presse, on a appris en fait le dépôt de bilan. Le sang a fait qu'un tour et on a été voir sur place. Et quand on est arrivé sur place, c'était fermé.
Aujourd'hui, il demande des comptes à Xina France.
Pour moi, Xina étant une marque sérieuse, je pense que le franchisé était à l'image. Et c'est là où j'en veux beaucoup à Xina de ne pas avoir vérifié déjà ça.
Xina, c'est une marque sérieuse, comme le dit Gonzague, notre auditeur, vraiment ?
Oui, et puis Xina se porte bien, hein. 190 franchises en France, avec en moyenne 10 magasins ouverts chaque année, une seule fermeture en 2023, à Agen donc. On a contacté Xina France, qui nous assure qu'elle choisit avec soin ses franchisés, et surtout, en cas de faillite, la marque a mis en place une garantie d'achèvement. En clair, il s'arrange avec un autre magasin franchisé pour finir les chantiers, et sans demander aux clients lésés de repayer la compte. Xina France certifie l'avoir proposé aux clients d'Agen, qui ont presque tous accepté.
Mais alors, pour nos trois auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été abandonnés par la marque?
Ils seraient passés à travers les mailles du filet. Selon Xina France, ses clients n'ont pas voulu faire leur cuisine avec un autre franchisé. Et effectivement, Gonzague nous explique que le service client lui a bien proposé de reprendre son dossier. Mais à lui, on a dit qu'il fallait à nouveau payer la compte déjà versée. Or, on le comprend, il aimerait bien récupérer ses 2700 euros. Xina France va réfléchir à la manière de s'excuser pour la gêne subie. Et nous, on va suivre ça de près.
Évidemment, on compte sur vous, 7h23. L'actu éco, Manu. Bruno Le Maire, sur RMC BFM TV, a clairement invité lundi les patrons à prendre parti contre le RN. Qu'il se mouille, voilà ce qu'avait dit Bruno Le Maire. Depuis, c'est la discrétion au minimum.
Absolument.
Absolument, ça fait quand même une semaine, hein, et puis on comprend un peu la frustration du ministre de l'économie qui se dit quand même, après tout ce qu'on a fait pour vous pendant le Covid, on a baissé les impôts, etc. Mais c'est vrai que finalement, il y a eu très peu de réactions, hein. Les grandes organisations patronales que sont l'AFEP pour les très grandes entreprises, la CPME, les petites, l'U2P, artisans, commerçants et le MEDEF, il y a finalement que le patron de l'U2P qui a réagi chez vous, Apolline, mercredi, en disant même que bah, cette idée de demander au patron de s'engager, c'était pas forcément une très bonne idée. Et c'est vrai que à un moment, il a été évoqué un communiqué commun, et ben communiqué commun qui n'est jamais venu. Ces organisations se sont juste contentées de rappeler quelques lignes rouges à ne pas franchir, qui concernent d'ailleurs à la fois le RN et le nouveau Front Populaire sur, par exemple, la fiscalité. Mais ces organisations, elles disent, nous, on peut pas faire de politique parce que nos membres, ils ont des opinions diverses.
C'est pas la vraie raison.
Non, c'est pas les vraies raisons. Il y a des raisons plus profondes. Les vraies raisons, c'est d'abord que ces entreprises, et notamment les grandes, ne veulent pas jeter d'huile sur le feu et affoler un peu plus les investisseurs étrangers et les marchés financiers. Et puis surtout, on est dans un pays où les relations entre l'État et les entreprises sont quand même très denses. Vous avez beaucoup d'organisations patronales qui passent leur temps à négocier avec les administrations, avec l'État, et qui se disent, on ne peut pas se permettre de se fâcher avec une future...
ceux qui potentiellement sont au pouvoir.
Exactement. Dans... On ne peut pas se fâcher avec une future administration. Et puis, les patrons, vous savez, pour eux, le business, c'est le business. Et l'histoire leur a appris que ce qui pouvait apparaître sur le coup comme des catastrophes politiques, eh ben, finalement, a très bien tourné. Pour eux, rappelez-vous, 1981, on disait, ça va être une catastrophe. Ça a été une catastrophe pendant 2 ans. Et après, ça a été des très belles années. Jospin, 97, la gauche plurielle, on avait dit, oh là là, mon Dieu, les 35 heures, ça va être une catastrophe. Et la réalité, c'est qu'il y a eu après 4 ans.
Et puis, ils parlent beaucoup de Mélanie, en fait.
De croissance. Et ils disent Mélanie, regardez
en
Italie.
C'est la mélonisation.
Exactement. Giorgia Meloni en Italie. Pour les entreprises, ça n'est pas une catastrophe.
Et puis, Arnaud Demange est avec nous. Et justement, mon invité à 8h30, c'est Jordan Bardella.
Oui, alors peut-être futur Premier ministre, peut-être, on ne sait pas. En fait, dans 3 semaines, Jordan, soit il est Premier ministre, soit il est sous-secrétaire de séance à la commission germano-polonaise de surveillance des carpes en petits et moyens milieux fluviaux de Rhénanie du Nord. Il y a de l'enjeu pour lui en ce moment. Jordan Bardella réagira au comportement d'Éric Ciotti, qui a annoncé son ralliement au RN. Éric Ciotti avait promis des dizaines de députés. Il était, prends-moi Jordan, je t'apporterai des députés venus de pays où il ne pleut pas. Laisse-moi être l'ombre de ton chien. Oui, bah, Ciotti, on a vu, hein, il a des comportements de brêle un peu quand même. Finalement, il amène quoi? 2 élus et surtout, depuis, il s'est enfermé dans son ancien bureau en faisant n'importe quoi. Là, je suis Bardella, je regrette de l'avoir dragué quand même. Non mais tenez, prenez Charles. Charles, vous avez un date Tinder, le feeling passe bien, elle vous dit, tu veux venir chez moi? Et là, Charles, il court chez son ex en s'enfermant dans la salle de bain. Il se tartine de Nutella tout nu en faisant « Allez l'OM, allez l'OM !» en demandant à toutes les caméras de BFM de venir pour que tout le monde assiste au spectacle.
Et ben, je ne voyais la pas comme ça, Ciotti, mais oui, en fait.
Ça y est, on a l'image.
La nouvelle copine, elle aura moins confiance. Et bien, Ciotti, c'est pareil. Jordan Bardella commence aussi à être inquiet de l'alliance à gauche. Alors du coup, les attaques démarrent. Madame de Malherbe, l'extrême gauche est antisémite, madame. Et croyez-nous, au RN en antisémitisme, on s'y connaît. On a les meilleurs experts sur le sujet. On a dû mettre Jean-Marie Le Pen sous tutelle parce qu'il voulait voter Mélenchon. Oui, c'est du plagiat, n'est-ce pas? C'est dit, j'aime beaucoup la petite blonde, je la trouve brillante, la petite Ercilia Soudan. Oui, oui, bon, d'accord. En tout cas, madame de Malherbe, l'extrême gauche est prête à traiter les juifs comme nous traitons les arabes. Eh bien, c'est une honte, madame. C'est une honte. Alors, on va voir ce qu'on dit de Jordan Bardella tout à l'heure à 8h30.
Il sera donc mon invité à 8h30, Jordan Bardella. Vous n'hésitez pas, dès maintenant, vous m'envoyez vos questions et vous nous appelez au 3216. Par ailleurs, dans un instant, document RMC, la carte des attributions des circonscriptions du nouveau Front Populaire. Quelles attributions à LFI, quelles attributions au Parti Socialiste? On vous dit tout, c'est une révélation à RMC et ça se passe dans le journal de 7h30. À tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dinchamp. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La guerre à droite désormais devant la justice avec l'examen ce matin du recours déposé par Éric Ciotti pour dénoncer son exclusion du parti. Mais les Républicains ont anticipé. Nouveau bureau politique ce matin pour de nouveau l'exclure dans les règles. À gauche, l'union est scellée. Une bonne chose pour François Hollande. Mais il faudra quand même faire barrage face au Rassemblement National. Et puis l'euro, ça y est, ça commence. Et cette fois encore, la France part avec l'étiquette de favori. Les Républicains continuent de laver leur linge sale en public. Et ce matin, ils vont même le faire devant un tribunal, le tribunal judiciaire de Paris, qui va examiner à partir de 11h le recours déposé par Éric Ciotti, désormais ex-président des LR, pour contester son exclusion du parti voté à l'unanimité mardi après l'annonce de son alliance avec le RN. Un vote qui n'aurait pas été fait dans les règles, Julie Brault.
Oui, concrètement, Éric Ciotti conteste les conditions légales dans lesquelles il a été exclu. Selon lui, le bureau politique qui s'est réuni mardi n'en était pas vraiment un, mais plutôt, je cite, une réunion en dehors de tout cadre, car le cadre juridique, justement, impose que cette réunion se fasse à l'initiative d'un quart des membres du Conseil national du parti, une condition qui, dans l'urgence, n'a a priori pas été respectée. Tout à l'heure, le tribunal judiciaire de Paris pourrait donc bel et bien invalider l'exclusion du président déchu, une hypothèse que les Républicains ont d'ailleurs déjà anticipé. Ils sont justement en train de convoquer un nouveau bureau politique. Objectif, être dans les clous juridiques et légitimer une fois pour toutes la destitution d'Éric Ciotti qui conteste d'ores et déjà cette nouvelle réunion.
Et Éric Ciotti appelle désormais François-Xavier Bellamy à le rejoindre, la tête de liste des Républicains aux Européennes qui affirmait hier qu'il voterait pour le Rassemblement National face au Front Populaire de la gauche. Front Populaire qui va bel et bien voir le jour. Les négociations ont abouti hier soir et l'union est scellée, se félicitent les principaux partis de gauche. Ils ont donc réussi à se mettre d'accord sur des candidatures uniques dans chaque circonscription et selon nos informations, tous les députés sortants seront réinvestis, y compris l'insoumis Adrien Quatennens condamné pour violence conjugale. Sur le fond, ils vont présenter ce matin un programme commun en conférence de presse, mais cette alliance ne peut pas être la seule réponse face au RN. C'est ce qu'estime François Hollande hier aux 20h de TF1. L'ancien président appelle tout de même à faire barrage.
La décision qu'a prise le président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale intervient au pire moment et dans les pires circonstances. Mais elle est prise. Face à cette situation, nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France. Pour écarter l'extrême droite, il ne faut pas simplement faire une union de la gauche. Il faut aussi avoir des principes de désistement. Au deuxième tour, tout candidat qui n'est pas extrême droite doit bénéficier du désistement de toutes les familles politiques de la gauche. Un candidat de la majorité doit avoir notre soutien pour éviter l'extrême droite.
Faire barrage aux deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est l'appel lancé par la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui dénonce cette alliance de la gauche avec la France insoumise, porteur de séparatisme et vecteur d'antisémitisme, écrit l'association dans un communiqué. Et c'est justement le dilemme pour certains électeurs, comme l'a constaté Marilyn Ottmann en région parisienne.
Le nouveau Front Populaire ou le Rassemblement National?
Dans les deux cas, ça va être le chaos.
Aucun des deux, répondent ces électeurs de gauche et de droite.
Que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, on va vivre de toute façon dans une société qui sera plus du tout apaisée.
C'est des propositions inenvisageables.
Mais vous en avez une qui vous vient en tête?
Par exemple, Le Pen, là, elle veut fermer les frontières. Pensez-vous que c'est faisable? C'est trop extrême.
Ginette est justement en route vers le commissariat pour faire sa procuration.
Les extrêmes ne me intéresse pas du tout. Ni à droite, ni à gauche. Je peux pas choisir. Eh bien, je vais voter blanc.
Même rejet partagé par Bruno.
L'extrême droite pense que c'est raciste. La gauche, avec Mélenchon, on a vu à quel point il était antisémite.
Voter pour un extrême, qu'il soit de gauche ou de droite, est un danger pour la cohésion sociale. C'est ce qu'estime Mario Stasi, président de la LICRA.
Il y a évidemment un risque premier, qui est l'accession du RN au pouvoir. Et sous-tendu par une xénophobie, mais de l'autre côté, LFI. Nous avons aussi un identitarisme, un communautarisme. C'est dangereux.
Mais il incite à voter et à ne surtout pas s'abstenir.
7h35, une bonne nouvelle qui devrait nous permettre de respirer un peu le début de l'euro. Aujourd'hui, en Allemagne, le pays hôte qui affrontera en ouverture l'Écosse à Munich. Coup d'envoi à 21h. Les Bleus, eux, entreront dans la compétition lundi face à l'Autriche avec à nouveau Loïc Braillet, l'étiquette de favori.
Avec un parcours de 6 finales de Coupe du Monde ou d'Euro sur 13 possibles depuis 1998, le discours des Bleus devrait naturellement être ambitieux, mais il est surtout prudent. Antoine Griezmann.
On va être favori sûrement, mais il faut le prouver sur le terrain. Si on se voit trop beau, on va finir par commencer le match comme contre l'Australie à perdre 1-0 et ça peut se compliquer. Donc les pieds sur terre et pas penser plus loin qu'à l'Autriche.
Autriche, Pays-Bas, Pologne, trois adversaires en phase de poule largement à la portée des Bleus, mais pour Kingsley Coman, la France n'est pas la seule favorite du tournoi.
L'Allemagne
a toujours été une grande nation et c'est un euro chez eux. Donc je pense aussi qu'ils font partie des favoris comme nous, comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme plein de grandes nations. Mais après, favoris, c'est un titre sur papier. On sait que c'est pas toujours les favoris qui gagnent.
Et oui, la preuve avec le dernier euro où les Bleus ont été éliminés en 8e de finale par la Suisse. Une tache sur le brillant CV du capitaine Kylian Mbappé qui n'avait que 1 an et demi lors de la dernière victoire des Bleus à l'euro.
Ça fait 24 ans qu'on n'a pas gagné l'euro et je pense que les gens sont impatients de regagner cette compétition.
Et d'assumer jusqu'au bout ce statut de favori.
L'euro sur RMC, ce sera tous les matchs en direct, 12 consultants, l'after tous les soirs et une radio digitale 100% euro 24 heures sur 24. Vous saurez tout de l'actu des Bleus avec les équipes RMC en France et en Allemagne. Un mot de l'OM pour finir. L'OM en passe de décrocher son nouvel entraîneur et selon nos informations, c'est l'Italien Roberto De Zerbi qui devrait rejoindre le banc marseillais.
Et puis le quintet, 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 6, Harry Coyet. L'outsider, c'est le numéro 3, Gershwin de Chenu. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise dans Jean, 7h37.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Ça y est, la gauche a trouvé un accord pour faire campagne ensemble, un accord pour espérer gagner, mais pourrait-elle gouverner ensemble au-delà des profondes divisions de fond? Éric Coquerel, qui est le député sortant LFI, qui était jusqu'alors président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, répond à mes questions dans un instant. Il est l'invité du jour sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h39 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Éric Coquerel.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député La France Insoumise sortant et vous étiez d'ailleurs le président de la commission des finances de l'Assemblée sortante. Après 4 jours de négociations, ça y est, vous êtes parvenu à un accord hier, PS, PC, écologistes, LFI, une alliance. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde s'en réjouit? Est-ce que vous sentez des voix dissonantes? Est-ce que ça y est,
tout le monde... Non, tout le monde s'en réjouit.
Tout le monde s'en réjouit.
Parce que tout le monde devait être au rendez-vous de l'histoire. Quand vous avez, pour la première fois dans ce pays, la menace que l'extrême droite gouverne par les urnes, traditionnellement, la gauche, dans ces cas-là, se rassemble. Elle se rassemble sur un programme de rupture. C'était vrai avec le Front populaire dans les années 30. C'est vrai aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi, quelque part, on a convoqué ce nom aussi... important et célèbre, qui est celui du Front Populaire. Un nouveau Front Populaire.
Un nouveau Front Populaire, avec en particulier un programme économique qui pourrait être appliqué immédiatement. Une question en particulier, le SMIC, il est écrit, me semble-t-il, dans cet accord, on n'en a pas encore complètement le texte signé, mais que vous passeriez le revenu minimum à 1600 euros, c'est 1400 euros aujourd'hui.
Le SMIC, pas du revenu minimum.
Le SMIC, net.
Oui, c'est a priori ce qui a été décidé. En tout cas, il y a une revalorisation claire du SMIC. Il y aura sûrement un engagement pour augmenter les salaires à travers des réunions entre les partenaires sociaux avec la volonté de l'État d'engager vers les salaires. Et surtout, il y a une indexation des salaires sur l'inflation. Ça, c'était une revendication depuis que l'inflation est remontée, qui est évidente parce que c'est une manière de préserver le pouvoir d'achat. Et ça, c'est des mesures qui seront prises dans les 100 jours, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui.
Sous quelle forme?
Sous forme de... il peut y avoir des parties de décret, notamment par exemple au niveau de l'abrogation de la réforme du chômage, dont Gabriel Attal a dit qu'il allait de manière scandaleuse
Il l'a confirmé hier.
En décret, voilà, qui, je vous rappelle, attaque les chômeurs, mais transforme tous les saisonniers de ce pays en travailleurs pauvres, puisqu'ils ne pourront plus
bénéficier. Applicable, dit-il, dès le 1er juillet.
Voilà, hein, je pense que ça passera par un décret d'abrogation pour aller vite. Et puis le reste, évidemment, nous préférons passer par la loi. Nous l'avions dit quand nous étions l'opposition, nous le maintenons. Et il y aura évidemment, dès cet été, un projet de loi de finances rectificatif, notamment, par exemple, pour revenir sur ces annulations de crédit qui avaient été décidées par le gouvernement.
La toute première mesure, c'est quoi?
Alors, tout premier, je pense que c'est l'abrogation de cette réforme chômage. Enfin, à mon sens, hein, je ne fais pas partie des gens qui ont négocié, mais je pense que ça va être ça l'urgence pour qu'elle s'arrête tout de suite, parce que là, elle peut emmener vers la pauvreté encore plus de gens dans ce pays. Et pour eux et pour la consommation populaire, ce n'est pas souhaitable.
Dans le programme, il y avait, dans ce texte commun, il y avait la question des attaques du 7 octobre. Elles sont, elles, qualifiées, semble-t-il, de terroristes. Encore une fois, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais vous l'avez consulté. Les attaques elles-mêmes, mais le Hamas, en revanche, n'est pas qualifié d'organisation terroriste.
Écoutez,
ça a chopé, semble-t-il, là-dessus.
Non, oui, mais il y a une discussion. Nous l'avions dit, je ne vais pas répéter pourquoi nous considérons que si le Hamas est une organisation terroriste, alors nous avons affaire à une guerre de religion, comme nous l'avons, enfin, comme ce qui nous oppose à Daesh. Nous pensons que c'est une guerre coloniale. Ça ne remet pas en question notre condamnation. Nous l'avons toujours fait du 7 octobre. On a parlé de crime de guerre. C'est pas quelque chose d'anodin, d'accord? Mais c'est la lecture que nous faisons du conflit. Donc pour nous, c'est important. Mais
vous parliez de crime de guerre, mais dans ce texte, vous parlez bien d'attaque terroriste.
Je n'ai pas le texte final qui a été décidé. Donc
mais vous seriez
vous
prêt
à midi. Mais moi, je fais confiance aux négociateurs qui ont travaillé. Moi, je suis resté sur l'idée que nous n'avions pas affaire à des actions terroristes, mais à des actions de crimes de guerre dans le cadre d'une guerre coloniale. Et crimes de guerre le 7 octobre. Mais depuis, et vous le savez,
mais
la Cour de justice internationale.
Si le texte qui sort à midi, c'est très important. Éric Coquerel, là, moi, je vous parle du texte. Je vous parle des questions. Sur ce texte, qui fait qu'à un moment, vous allez pouvoir. Parce qu'il y a quand même deux étapes dans la
fiction. Je vais vous répondre.
Il y a deux étapes. Il y a une étape qui est de gagner ensemble, et ensuite, il y a une étape de gouverner ensemble. Si vous ne purgez pas avant les désaccords.
Il n'y a pas besoin de purger. Nous faisons un programme de gouvernement, un programme de gouvernement qui veut agir concrètement sur ce qui est en train de se passer là-bas. D'accord ? Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est, et vous le savez bien, c'est la Cour de justice internationale, c'est pas moi, parle de risque de génocide, parle de crime de guerre vis-à-vis du Hamas, c'est la Cour de justice internationale, mais aussi vis-à-vis de M. Netanyahou. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut arrêter, c'est le conflit pour donner une chance à la paix. Et de ce point de vue-là, ce qui nous met tous d'accord, et ce qui nous permet de gouverner, c'est le fait d'exiger un cessez-le-feu, c'est le fait d'aller vers la reconnaissance de l'État de Palestine en faveur de la paix. Voilà, ça nous permet de gouverner ensemble parce que c'est ça l'urgence.
Mais j'ai bien compris.
Attendez, j'ai bien compris. Vous regardez.
Je reprends juste le texte. C'est ça que je comprends pas.
Non, vous regardez pas le texte. Vous ne l'avez pas. J'ai bien compris.
J'ai reçu une version du texte hier soir.
J'ai bien compris que l'idée, c'est d'essayer de savoir ce qui peut nous diviser et puis qui pourrait.
Ah, c'est pas du tout moi. Les accords ont été suspendus hier autour de deux questions et notamment cette question-là. Donc c'est important de voir si vous avez réussi à vous mettre d'accord ou pas. Je sens que c'est pas évident.
Nous nous sommes mis d'accord avec les mots qui ont été choisis par les négociateurs pour rappeler notre condamnation totale du 7 octobre, mais rappeler aussi notre condamnation totale de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où je vous rappelle qu'il y a 40 000 morts palestiniens à Gaza.
Mais que vous rechignez à dire.
Et que dans l'intérêt à la fois des Palestiniens, mais aussi des Israéliens, il faut arrêter ça. Ça nous permet de gouverner ensemble.
Et si vous avez signé ce document,
Éric Coquerel,
je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que si vous avez signé ce document dans lequel il y a écrit attaque terroriste, pourquoi vous ne le dites pas?
On va passer tout l'interview sur quelque chose qui ne pose pas de problème dans le texte.
Qui a failli faire en sorte que vous ne vous mettiez pas d'accord?
Ce n'est pas le cas, réjouissez-en vous. Je vais vous dire pourquoi il faut s'en réjouir. Parce qu'aujourd'hui, si le nouveau Front populaire, si la gauche n'est pas rassemblée, l'extrême droite gouverne de manière évidente dans ce pays parce que M. Macron est discrédité. C'est ça qui doit être à la hauteur de l'histoire. Donc, les négociateurs ont trouvé les termes qui permettent à chacun de s'engager dans une politique de gouvernement sur la question sociale, sur la question écologique, sur la question démocratique, par exemple sur les lois immigration, et également sur la question internationale, en réaffirmant le soutien à l'Ukraine et en proposant que la France soit véritablement pas seulement des paroles mais des actes en faveur de la paix.
Ça, c'est pas gagné. Hein, si vous avez du mal à accepter les mots qui ont été acceptés par vos propres négociateurs...
Non, j'ai du mal à accepter le fait que vous cherchiez à tout prix dans le détail sur un texte que vous n'avez pas encore.
Éric Coquerel, hier, les négociateurs ont suspendu cette question-là.
Ils y sont arrivés, donc on va s'en réjouir et ça nous permet de gouverner ensemble sur cette question Proche-Orient qui me semble fondamentale, y compris en actes.
Qui pour gouverner?
Alors là, si vous regardez la qualité, j'allais dire, dans chacun des groupes, nous avons de quoi former plusieurs gouvernements.
Au sein même de votre groupe, LFI, sans parler des autres, il y a au moins deux personnes qui ont fait acte de candidature hier, ou en tout cas qui se sont dit prêts, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin.
Oui, ils ont dit qu'ils étaient capables, il y en a peut-être d'autres. Je vais vous dire franchement, je pense que c'est pas
mais
le sujet.
Mais vous aurez à choisir.
C'est pas le sujet.
Ceux qui vont voter, ils veulent savoir aussi qui incarnera.
Je ne sais pas ce que vous votez, mais laissez ceux qui vont voter considérer notre offre politique. Notre offre politique aujourd'hui, par rapport à des législatives qui ne suivent pas une présidentielle, qui a moins de personnalisation, c'est d'abord pour l'instant un programme. Nous allons le mettre sur la table à midi. Ensuite, c'est un collectif. Là, on a largement de quoi faire, plusieurs gouvernements. En plus, ensuite, très certainement, au cours de la campagne, il faudra quelqu'un peut-être qui se mette en ordre.
À ce même micro.
Ou un pacte collectif.
À ce même micro hier matin, Olivier Faure disait.
Ça crédibilisera tout ce que nous avons à faire pour nous permettre de l'emporter.
Olivier Faure disait hier matin, à ce même micro, que Jean-Luc Mélenchon s'était disqualifié. Enfin, n'était pas disqualifié, pardon, mais il n'était pas celui qui permettait une union sereine.
C'est quand même extraordinaire, Apolline de Malherbe. C'est quand même extraordinaire. Il y a une chose que personne n'attendait d'ailleurs. Monsieur Macron, en premier, peut-être qu'il n'aurait pas dit souci, c'est que la gauche se rassemble sur un programme ne sera pas uniquement pour sauver des candidatures, sur un programme pour gagner. Et là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de m'interroger sur tel ou tel mot qui pourrait indiquer qu'il y a division. Alors, je vous le dis,
en fait, on a été
il n'y a
chaudé.
Pas de problème par rapport à ça.
Éric Coquerel, parce qu'il y avait eu la NUPES, et assez vite, chaudé. On l'a bien vu, elle s'est fracassée, cette NUPES. Je me souviens de M. Roussel, qui lui-même dit qu'il n'a même pas réussi à avoir
pour les législatives,
au téléphone.
Pour les
législatives. C'est vrai qu'on a du coup du mal à imaginer que vous puissiez
voilà,
au-delà des législatives.
Vous savez pourquoi c'est arrivé? Parce que pour la première fois dans l'histoire, l'extrême droite peut être passée dans les urnes dans ce pays. Jusqu'à maintenant, elle n'a gouverné que par la grâce de l'occupant, c'était Vichy. Aujourd'hui, c'est par les urnes. Donc à partir de là, exactement comme d'ailleurs le premier Front Populaire. Je vous rappelle que le premier Front Populaire, il se crée parce que après le 6 février 34, un coup d'État fasciste, une tentative de coup d'État fasciste, vous avez des cortèges socialistes et communistes qui se rejoignent dans la rue. Et plusieurs jours avant, figurez-vous, les dirigeants de ces deux partis se traitaient avec des noms d'oiseaux pour lesquels, face auxquels nos divisions et ce qui s'est passé
dans la campagne paraissent très peu. On est bien d'accord.
Donc nous sommes à la hauteur de l'histoire. On va s'en réjouir, nous sommes à la hauteur de l'histoire, y compris avec un programme de gouvernement qui tient la route. Et vous savez pourquoi il tient la route? Vous parliez de l'échec de la NUPES.
Mais Éric Coquerel,
vous parlez de l'échec de la NUPES. Non, c'est pas hallucinant.
Mais je veux dire, vous ne pouvez pas trouver illégitime qu'on se pose la question de savoir si au-delà de l'accord gagné, c'est un accord pour gouverner.
Bien sûr, vous avez toute la légitimité de me poser des questions et moi de répondre. Je vous dis donc que c'est pourquoi nous avons un programme. Parce que la NUPES n'a pas complètement échoué. La NUPES a été capable, à un moment donné, de donner une base programmatique sur laquelle nous avons puisé.
Je dis pas qu'elle a échoué, je dis qu'elle s'est divisée.
Nous avons puisé les accords. Et en plus, rappelez-vous, elle avait permis à la gauche alors d'être en tête au premier tour des législatives. Donc, il y a une base, ok? C'est vrai qu'après, il y a eu des problèmes, etc., comme dans la vie politique.
Voilà.
Eh bien, nous sommes capables, parce que cette base a existé, qu'elle a continué d'ailleurs à fonctionner à l'Assemblée. Je vais vous donner un scoop. Moi, président de la Commission des Finances, d'accord, la NUPES, dans la Commission des Finances, continue à fonctionner fort bien sur un programme économique, social. C'est sûrement ce qui a aussi permis peut-être que ça s'accélère.
Et c'est pour ça que
je
vous ai d'abord interrogé là-dessus, c'est que ces points-là, on le sent bien, sont ceux sur lesquels vous êtes le plus en accord.
Donc, en réalité, et moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu cette accélération, la NUPES avait encore un avenir, parce que la base qui a été la nôtre programmatique, qui rompt avec la gauche sociale libérale, qui impose un programme de rupture, elle existait, y compris dans les faits à l'Assemblée. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'espérer gouverner ensemble.
Merci Éric Coquerel d'être venu dans ce studio. Je rappelle la première mesure qui serait prise si vous accédez au pouvoir, supprimer cette réforme de l'assurance chômage qui par décret, c'est ce qu'a dit encore Gabriel Attal hier, sera prise dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Éric Coquerel, il est 7h50 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous, Nicolas Poincaré.
Et je vous explique quel est le bilan de Giorgia Meloni, la première ministre italienne qui reçoit en ce moment les dirigeants du G7.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles avec le retour de Manu Chao.
Me gustan los aviones, me gustas tú.
Ouais. 17 ans que le chanteur et guitariste n'a pas sorti d'album. D'abord leader de la Mano Negra dans les années 80, est devenu star mondial en solo avec son album Clandestino sorti en 98. Depuis, il vit à Barcelone et continue à monter régulièrement sur scène en Europe, en Amérique latine, dans des petits festivals assez confidentiels. Mais aujourd'hui, il prépare son grand retour selon sa maison de disques, un nouvel album attendu à la rentrée. Et Manu Chao a d'ores et déjà dévoilé le clip du premier single. Ça va s'appeler Viva Tu.
Viva Tu, Viva Tu, Viva Tu, la mare lu, Viva Tu, Viva Tu, Viva Tu.
Un demi-million de vues en quelques jours. Preuve qu'à 62 ans, Manu Chao a toujours un public très fidèle.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my bongo bong. King of the bongo, king of the bongo.
RMC, Apolline Matin.
7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. L'Italie accueille jusqu'à ce soir un sommet du G7. C'est une première ministre triomphante qui reçoit les dirigeants des pays les plus industrialisés.
Oui, et Giorgia Meloni prend une revanche ces jours-ci, puisque l'an dernier, au sommet du G7 au Japon, elle était un peu regardée de travers. C'était la petite nouvelle. C'était surtout la seule dirigeante d'un grand pays occidental à être classée à l'extrême droite. En Italie, on dit post-fasciste. Un an après, le vent a tourné. D'abord parce que la plupart de ses partenaires sont affaiblis. Emmanuel Macron vient de dissoudre. L'allemand Olaf Scholz a reçu une claque aux européennes. L'anglais Rishi Sunak est en sursis. Joe Biden n'est pas sûr d'être d'être là l'année prochaine. Alors qu'elle, Giorgia Meloni, eh bien, elle vient de remporter une large victoire aux européennes et en étant elle-même tête de liste sur la photo de famille du G7. Elle n'est pas seulement la seule femme, elle est aussi la seule sans doute à être aussi populaire dans son pays.
Quel est son bilan un an et demi après son arrivée au pouvoir?
Alors les mauvaises langues disent qu'elle n'a pas fait grand-chose, en tout cas beaucoup moins que prévu. Économiquement, les résultats sont décevants, la croissance est en berne, les déficits restent élevés, la dette aussi, le chômage des jeunes dépasse les 20%. Elle a surtout pris des mesures très symboliques. D'abord la suppression du revenu citoyen, l'équivalent de notre RSA, mais aussi plus récemment une mesure beaucoup moins libérale, la taxation des profits des banques. Donc un coup de barre à droite et un coup de barre à gauche.
Mais c'est surtout sur la question de l'immigration qu'elle était attendue.
Oui, puisque c'est une des raisons de son succès en 2022. Elle avait promis un blocus naval en Méditerranée pour mettre un terme à l'arrivée massive des immigrants. Et finalement, ce blocus n'a pas eu lieu. Et même dans un premier temps, le nombre des clandestins qui atteignaient les côtes italiennes a fortement augmenté après l'élection de Giorgia Meloni. Mais au bout du compte, la présidente du Conseil est à l'origine d'un accord entre l'Europe et la Tunisie. L'Europe paye une fortune au gouvernement tunisien pour empêcher les bateaux de partir. Résultat, ces migrants vivent dans des conditions épouvantables en Tunisie, mais de fait, le nombre d'arrivées a fortement baissé en Italie. Et Giorgia Meloni est en train de mettre en place un système pour sous-traiter à l'Albanie l'accueil des demandeurs d'asile. Dans le même temps, elle a augmenté l'immigration légale. On peut même dire qu'elle a ouvert les vannes, puisque l'Italie a accordé 400 000 visas de travail sur 3 ans, décision prise sous la pression du patronat qui a besoin de main-d'œuvre.
Giorgia Meloni a aussi pris des mesures sur le thème de la famille.
Oui, son gouvernement encourage par exemple les mairies à ne pas enregistrer 2 pères ou 2 mères pour un enfant. La GPA, la gestation pour autrui, qui est déjà interdite, est devenue un délit. Giorgia Meloni revendique d'être une catholique pratiquante. Elle a décidé de défendre la famille traditionnelle, mais sur ce sujet, elle irrite ses partenaires du G7, puisque le sommet devait adopter un texte sur l'avortement, un texte qui se prononcé pour un accès sûr et légal à l'interruption volontaire de grossesse. Ce texte était notamment important pour Joe Biden, à l'heure où le droit à l'avortement est fortement remis en cause aux États-Unis. Mais Giorgia Meloni s'oppose à ce texte et à l'heure où on en parle, les discussions sont encore en cours pour essayer de trouver un compromis avant ce soir.
Merci pour ces explications, Nicolas Poincaré. D'autant plus intéressantes qu'un certain nombre d'observateurs disent qu'il pourrait y avoir une Giorgia Melonisation du programme du RN. Voilà des questions que je poserai d'ailleurs tout à l'heure à Jordan Bardella, qui sera mon invité dans une grosse demi-heure, à 8h30. Il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.